Salut.
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 Aujourd'hui, on parle anti-nucléaire, on parle de Bure.
Ouais. Enfouissement des déchets.
Enfouissement des déchets avec Gérard.
Avec Jackie.
Voilà, Jackie.
Jackie Gérard.
Jackie Gérard, c'est ton petit prénom aujourd'hui.
Voilà.
Et voilà, on va parler de ça pendant toute l'émission, notamment de la problématique de l'enfouissement et de la lutte qu'il y a autour de ces enfouissements.
On aura une interview de quelqu'un qui a habité là-bas, qui est originaire de là-bas. Qui est originaire de la région, pas mal impliqué dans la lutte. Et aussi, on va parler de l'appel qui a été fait là récemment à Bure, Bure 365. Jours. On reviendra plus en détail au cours de l'émission. Mais on voulait commencer, pour mettre un peu en jambe sur ce sujet du nucléaire, faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé ces quelques dernières années.
Trois dernières années,
principalement en France, sur la question du nucléaire.
Dans l'Ouest et en Normandie notamment.
Ouais, par rapport à la THT.
Où le mouvement était le plus fort.
Ouais.
Oui, pour faire un petit compte-rendu de la grosse activité anti-nucléaire en France ces dernières années, on a notamment l'exemple de la THT en Normandie pour la construction d'une ligne THT Cotentin-Maine.
Alors THT,
c'est très haute tension.
Ligne à très haute tension.
C'est-à-dire 400 000 volts.
Vos trucs là, espèce de grands poteaux en métallique.
Les plus grands que vous pouvez imaginer.
Voilà, d'électricité.
Et alors celui-ci servait
à transporter
l'énergie qui était produite à
qui va être produite,
c'est ça.
Le nouvel EPR.
Alors EPR, par contre, établi.
C'est une énorme centrale nucléaire.
Voilà, enfin, de nouvelles générations.
Génération de réacteurs. Et donc notamment dans ces mouvements, il y a une réaction assez vive dès le départ sur quelques communes de Normandie, notamment le Chéfrenne. Sans parler tout de suite de la ligne THT, on a eu un truc qui a fait pas mal de bruit dans le rassemblement antinucléaire dans l'Ouest, qui est un rassemblement à Valognes, qui était là pas spécialement contre la lutte anti-THT, mais plus un peu contre, pour le dénoncer, les transports de déchets nucléaires par train, par camion et tout ça.
Mais le nucléaire en général aussi.
Et le nucléaire en général,
bien sûr. Avec, évidemment.
Et du coup, du 21 au 23 novembre 2011, il y avait une espèce de camp à Valognes dont le but était de bloquer des trains Castor. Train Castor, c'est les trains qui transportent des déchets nucléaires. Qui était une tentative de blocage par des jeunes anti-nucléaires, et jeunes et moins jeunes. Et donc ce rassemblement, on n'a pas empêché le train de partir. Mais par contre, il a fait quand même... le train a eu beaucoup de retard. Il y a eu quelques dégâts, quelques dégradations. Mmh. Et disons que dans l'Ouest, les gens qui ont participé à cette journée avaient plutôt eu le sentiment de quelque chose qui se relançait un peu dans le mouvement antinucléaire dont on n'entend plus beaucoup parler aujourd'hui. Et du coup, ils avaient eu un peu d'enthousiasme à cette journée. Il n'y avait pas eu tant de répression que ça. C'était un peu à passer à la trappe dans les médias, mais...
Il y avait quand même quelques trucs.
Ça a quand même remué un peu.
Alors, c'était une action qui était... l'idée est venue un peu de l'Allemagne, qui ont une culture assez forte de blocage de trains nucléaires. Notamment, on en parlera peut-être plus tard, à Gorleben. Voilà, qui eux aussi avaient lancé une année d'action, Gorleben 365. Voilà. Et voilà, donc ce train Castor là partait de La Hague et de tout ce complexe nucléaire français qui est un des plus gros complexes nucléaires au monde pour le retraitement des déchets. C'est-à-dire que bon, il y a des containers du Japon, de partout, des États-Unis qui arrivent parce que la France a un savoir-faire plus conséquent que d'autres pays pour le traitement de ces déchets-là. Et après, ça retourne, c'était des déchets allemands, et ben ça retournait en Allemagne. Et donc l'idée, c'était de dire, ces déchets-là, c'est pas des déchets allemands, quoi, c'est des déchets du monde entier. Donc on bloque ce train parce qu'on est contre le nucléaire. Et le monde qu'il produit.
Et parce que transporter des déchets nucléaires sur longue distance fait courir des risques et aux personnes qui conduisent ou qui pilotent les engins et à la population rien que...
Qui est traversée par ces déchets, évidemment.
Et donc maintenant, je crois qu'on peut faire un petit point sur le mouvement anti-THT en Normandie, sur ce projet de grosse ligne qui est aujourd'hui pratiquement fini de construire. Où c'était, entre 2011 et 2010, 2013... une pas forcément forte mobilisation, mais de forts liens créés entre de jeunes personnes et des gens un peu plus locaux sur le terrain, notamment au Chéfrenne, avec un maire qui était très impliqué dans le refus de cette ligne.
une ligne qui implique de traverser évidemment pas mal de communes.
Ouais, c'est 163 km de ligne.
163 km et ouais. C'est des pylônes énormes avec évidemment toute la pollution électromagnétique qui va avec.
Ouais, tout l'aménagement du territoire.
Tout l'aménagement du territoire. Ouais. On coupe des arbres, on vire des baraques, etc. Quoi.
Et surtout qu'ils traversent beaucoup de champs où c'est des élevages de vaches,
ouais.
Élevages bovins, où en fait des études ont montré que ça dépendait des natures du sol, mais la ligne faisait créer des phénomènes d'induction de chaleur qui perturbaient les animaux et les rendaient plus ou moins malades. Et donc, ils ont remarqué qu'énormément de paysans changeaient leur élevage bovin pour de l'élevage céréalier parce que c'était plus possible avec ce genre de ligne qui passait dans leurs champs.
Et là, il y a eu une mobilisation le 24 juin 2012, c'est ça ? Et il y avait 500 personnes
réunies dans un camp, ouais.
Ouais, ouais. Et qui ont tenté, donc c'était l'espèce de. C'était annoncé comme étant l'espèce d'épisode 2 après voilà. Valogne, et qui ont tenté de bloquer, en tout cas de perturber.
De faire une campagne de sabotage, clairement, voilà. en proposant à tout le monde d'amener un peu de matériel pour déboulonner les pylônes et viser les installations. Les nucléocrates.
Et là, malheureusement, c'était plutôt la débâcle et la répression hyper forte du côté.
Grosse côté répression du côté des flics, des blessés.
Des blessés en voiture.
Il y a une personne qui s'est fait arrêter aussi.
Voilà, une personne a perdu un œil ce jour-là. Beaucoup de personnes avec des éclats de grenades, de désencerclement ou de grenades assourdissantes dans les jambes, dans les membres et tout ça. Dont notamment une personne qui a eu le nerf sectionné de la main, qui a eu de la chance parce qu'elle a réussi à garder sa main.
Ouais.
Donc voilà, et là c'était un peu le coup de grâce, un peu grosse campagne de répression, le mouvement qui s'essouffle, les pylônes qui sont construits jour après jour, même si une petite minorité essayait de les déboulonner entre les rondes de policiers.
Ouais. Il y avait une campagne que j'avais trouvée assez marrante, c'était déjà, il y a plusieurs années avant ça, où les gens avaient appelé à les déboulonner la nuit, tranquille, à quelques-uns, et de renvoyer les boulons par la poste à EDF.
Je crois qu'ils en avaient renvoyé quelques-uns.
Voilà.
C'est ce qui se passe dans l'Ouest. C'est ça, je
ne sais pas. C'est ce qui s'est passé dans l'Ouest.
C'est ce qui s'est passé dans l'Ouest de la France.
Ouais, tout à fait. Et donc, dans l'Est, il y a d'autres choses qui se passent, et notamment dur.
Alors, notamment avec dans l'Ouest, une création de l'Assemblée nucléaire de l'Ouest. Et l'été dernier. Le projet de Bure qui est quand même assez vieux, lors d'un petit festival contre la grande poubelle nucléaire, a été adopté à la création d'une assemblée nucléaire du Grand Est.
Anti-nucléaire du Grand Est.
Anti-nucléaire du Grand Est.
Alors, on va dans l'interview qu'on va vous passer juste après, on revient plus en détail un peu sur l'histoire de Bure et qu'est-ce que c'est que le projet CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires. On fait qu'on la passe maintenant et on revient en studio tout à l'heure.
Ouais, bon coup.
Allez, à tout à l'heure.
À Bure, il y a un laboratoire de recherche pour l'enfouissement des déchets nucléaires qui va se transformer d'ici quelques années en centre d'enfouissement pour les déchets nucléaires qui sortent des centrales, tout ce qui est stocké à La Hague et à Marcoule. Donc 98% de la radioactivité totale en fait, un déchet qui va se retrouver à 500 mètres sous nos pieds à Bure.
Tu peux nous raconter un peu l'histoire du projet de Bure, de ce qui se passe par là-bas, de ce qu'il y a déjà, essayer de brasser un peu tout ce qui s'est passé. Au départ, c'était des champs, on va partir de là.
C'est une terre agricole, céréalière, où il n'y a pas grand-chose d'autre à part l'agriculture intensive. Il y a eu un laboratoire qui s'est implanté, le laboratoire de l'ANDRA, donc sur la recherche pour l'enfouissement des déchets radioactifs, qui s'est implanté entre les années 90 et 2000, donc qui est rentré en fonctionnement dans les années 2000, et donc qui fait de la recherche sur la possibilité d'enfouir les déchets à moins 500 mètres de profondeur.
Et ça, du coup, c'est un labo, du coup, si on va à Bure, on peut le voir, il existe déjà, il est fonctionnel.
C'est un labo, je ne sais plus quelle surface il fait, mais c'est assez gros. De nuit, c'est super éclairé, ça se voit de très loin. C'est fonctionnel depuis peut-être une dizaine d'années qu'ils font des recherches, etc. là-dessus. Il y a plein de trucs construits autour, en fait c'est sur une butte au milieu de nulle part. Il y a un hôtel-restaurant à côté, il y a les archives d'EDF à côté. Il y a un bâtiment qui permet de collecter des informations sur la faune et la flore, afin de, une écothèque afin de garder la mémoire de l'environnement. Donc un peu particulier comme truc. Ils font des paillettes d'animaux, des plantes séchées, des trucs comme ça.
Et du coup, sur ce, quand ce labo il a voulu s'implanter, il y a eu une opposition à ce que ce labo il se construise, ou enfin c'est passé comme une lettre à la poste.
Déjà, ils ont voulu s'implanter dans pas mal d'autres endroits en France. Entre les années 80 et 90, ils ont tous été mis à la porte de partout. Personne n'en a voulu, et pas mal. Ça a été pas mal violent par endroits où ils ont séquestré les mecs, des choses comme ça. À Bure, ils sont venus, c'était un peu plus facile parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Il y a 6 ou 7 habitants au kilomètre carré. Et donc, ils sont installés et à la construction, il y a eu pas mal de camps faits l'été. Dans un champ, juste en face du laboratoire, où il y a pas mal de manifestations, il y a quelques attaques du laboratoire, notamment des défonçages de portails. Ils ont été emmurés, ils ont été pas mal de choses comme ça. Mais...
Du coup, il y a eu des associations qui se sont créées un peu pour de lutte, ou c'était comment? C'était des associations, c'était des collectifs, qu'est-ce qu'on trouvait un peu autour de l'opposition au laboratoire?
Il y a pas mal d'associations qui tournent autour, locales, en fait, qui luttent contre le truc, des petites associations, en fait, parce qu'ils l'ont posé, en fait, en limite de 2 régions, de 2-3 départements. Donc il y a des assos qui sont montés dans chaque département, qui se coordonnent plus ou moins, après qui n'ont pas tous la même ligne directrice, mais comme partout dans les antinucléaires, on va dire. Le labo, c'est quasiment de l'histoire ancienne. Maintenant, il commence à pas mal traiter en fait sur le projet CIGEO, donc qui est le centre industriel de stockage géologique.
De stockage géologique, donc des déchets nucléaires.
Voilà. Ça, ils précisent pas dans leur nom, mais c'est le site industriel d'enfouissement des déchets. Quoi. Donc là-dessus, il y a eu un débat public en 2004-2005 pour ou contre l'enfouissement des déchets. Donc qui a débouché sur rien. Les conclusions étaient assez hostiles à l'enfouissement. Ouais. Mais derrière, tu as une voix qui a été en 2006 qui a été votée pour l'enfouissement, qui est déclaré que l'enfouissement c'était la seule et meilleure solution. Et donc actuellement, en 2013, il y a eu un nouveau débat public qui était plutôt tourné sur les options du projet d'enfouissement, sur l'implantation, quelle était la meilleure option, la couleur du portail, des choses comme ça. Donc très intéressant comme débat. Donc il y a eu un appel à boycott.
Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir au nom de la municipalité de Bure. Bon débat à tous.
Donc il y a une quarantaine d'assos qui sont assemblés en collectif et qui ont organisé un peu ce blocage. Donc il devait y avoir des réunions de débat public partout en France. Il devait y en avoir 4-5 dans la région de Bure. Puis après, il devait y en avoir 6 ou 7 partout en France. Et donc il y a eu la première réunion publique à Bure, dans la magnifique salle des fêtes. C'était au mois de mai, il me semble, mi-mai, et elle a duré 15 minutes. En 15 minutes, elle s'est arrêtée. Il y avait trop de bordel.
Il y avait des gens qui étaient venus pour...
Il y avait du monde un peu de partout qui était venu, pas mal de gens qui étaient opposés au labo, qu'on a vu réapparaître. Pas mal de monde qui était venu sans connaître les termes du blocage et ce qui avait été prévu de se faire, qui sont venus hors collectif et qui ont participé au blocage et à foutre la merde dans le truc. Donc suite à ça, ils ont annulé la réunion qui avait prévu de la semaine d'après, qui a été reportée, qui n'a pas été annulée mais qui a été reportée à une date non connue.
D'accord.
Ensuite, il y a une autre réunion à Bar-le-Duc, donc qui est la préfecture.
D'accord.
Qui est la préfecture, et là, c'est pareil, ils ont changé la date au dernier moment, ils ont fait monter la pression avec les flics, etc. Il y avait pas mal de gendarmes mobiles présents autour. Mmh. Et du coup, la réunion a duré 40-50 minutes.
Ah là, ils ont réussi à tenir un peu plus longtemps.
Voilà. Mais du coup, en fait, il y avait dans les 500 personnes présentes dans la salle, donc 400 opposants.
400 opposants,
ouais.
Sur 500.
Donc voilà.
Okay.
Sur les 100 autres, c'était des flics en civil ou des gens de l'Andra, quoi.
D'accord.
Pour faire simple. Et donc, ouais, c'était c'était une période où il faisait 30-35 degrés dans un grand hall gymnase sous les tôles, donc il faisait hyper chaud. Et ça commençait à être le bordel où ils interdisaient de rentrer avec des bouteilles d'eau. Donc, déjà, ça a commencé à chauffer à l'entrée. Et puis après, à l'intérieur, c'est parti en mode on fait du bordel, mais pacifiquement, sans faire de trucs. Donc on est parti sur des. On a lancé des applaudissements sans arrêter, avec des sifflets, en tapant sur les chaises. On continue avec une dame d'Europe Écologie Les Verts qui essayait de s'égosiller pour nous convaincre de participer au débat. Donc pendant une demi-heure, 40 minutes, elle essayait de parler dans le bruit.
D'accord. Et du coup, pourquoi vous refusez de participer au débat, en fait? Parce que ça, c'est intéressant comme posture.
Pourquoi on ne veut pas aller dedans? Parce qu'en fait, Bure est déjà décidé. Et aujourd'hui, la population, les gens lambda, on leur parle, ils disent « Ah, chouette, un débat public, on va enfin pouvoir parler Bure et dire est-ce qu'on n'en fuse pas ?» À quoi ça sert d'aller débattre d'un projet qui est déjà budgété, conçu industriellement? Et ce qui est terrible, c'est qu'on ne nous a pas demandé notre avis.
On refuse de participer au débat parce que c'est un truc qui ne sert à rien, qui débouche sur rien, qui n'est pas décisionnel derrière. Et du coup, là, c'est pas un débat pour discuter pour ou contre le projet, c'est juste un débat pour les options, pour discuter de l'intérêt du truc, quoi. Donc, tu participes au débat, t'es pour le projet, quoi. Tu participes à sa construction, donc du coup, on est clairement contre ce pseudo-débat.
D'accord.
Et derrière, peu importe ce que tu dis, ils en tiendront pas compte, donc ça sert à rien. Du coup, des réunions physiques, il n'y en a pas eu. Après, ils ont tenté d'organiser des permanences.
Ouais.
Sans faire de com ni quoi que ce soit, en mettant 3 affiches dans le village où ils faisaient le truc, 2 jours avant. Donc, ils étaient à 3-4 personnes et ils attendaient que les gens viennent déposer leurs requêtes à leur bureau. Et donc, ils ont essayé d'en faire 2. La première, il n'y avait personne et puis on était devant pour bloquer. Puis la deuxième, ils n'ont pas pu rentrer dans la salle. Donc, il n'y a pas eu non plus.
Et du coup, ils valident quand même leur débat public. Il est quand même.
Ils ont réussi à faire un débat public sur Internet.
Bon débat à tous.
Pas très public, mais ils ont fait un débat sur Internet. Donc ils ont fait plusieurs réunions durant l'été et puis l'automne. Quoi. Très peu de participation. Je sais plus combien, mais sur un truc sur Internet, il y a très peu de. Il y a 2-3 000 participations sur un truc national. Ça fait pas beaucoup, quoi. On a reçu il n'y a pas longtemps un mail venant de la CNDP qui disait qu'ils étaient pas d'accord entre eux, comme quoi le débat était une réussite, que s'il fallait le valider ou pas, qu'il y avait des dissensions chez eux, qu'ils n'étaient pas tous d'accord, etc. Donc là, on attend la suite.
Ouais, du coup, la posture de refuser de participer, ça les perturbe quand même, en fait.
Ouais, surtout qu'il n'y a pas eu beaucoup de participation, qu'il n'y a pas eu grand-chose, donc ils ne sont pas tous d'accord, comme quoi. Le truc est valide ou pas, s'il faut le laisser tel quel ou recommencer un autre truc.
À Bure, il y a un laboratoire de recherche pour l'enfouissement des déchets nucléaires qui va se transformer d'ici quelques années en centre d'enfouissement pour les déchets nucléaires qui sortent des centrales, pour tout ce qui est stocké à La Hague et à Marcoule. Donc 98% de la radioactivité totale, en fait. Qui va se retrouver à 500 mètres sous nos pieds à Bure.
Depuis 3 ans, en fait, la maison organise l'association Bure Zone Libre avec 2 autres collectifs, organisé un festival qui s'appelait le Petit Festival contre la Grosse Poubelle Nucléaire. Donc sur un terrain prêté par le maire d'une commune voisine, qui est le seul maire des communes proches opposé au projet. Et donc, ils nous prêtent un terrain et toutes les autorisations pour pouvoir faire la manifestation. Et donc, tous les ans, on faisait un festival sous chapiteau, fin de l'été, avec des spectacles de cirque, des concerts, des conférences, des expositions. Et donc, on attire dans les 300-400 personnes.
Du coup, ça a permis des rencontres, ça a permis des choses.
Donc, c'était, ouais, ce festival, c'était dans le but, en fait, d'attirer via des spectacles, via via du cirque, via des projections, d'attirer un peu la population locale à venir se distraire, parce qu'il y a très peu de divertissement et de culturel en fait dans ce secteur-là. C'était de créer un truc culturel pour attirer les gens et glisser un peu d'anti-nucléaire dedans. Donc là, on a fait 3 ans. Donc le dernier festival, il y a eu NAG qui a été créé, donc l'AG Grand Est, qui était un peu la première réunion de cet AG. C'est une assemblée d'individus qui se rassemblent pour travailler ensemble sur quoi faire, sur les projets pour lutter contre le projet.
L'assemblée de
lutte, du coup. Voilà. Là, il y a le débat public qui se termine là. Qui se termine aujourd'hui, qui était sur en 2013. Après, suite à ce débat public, il y a la demande d'autorisation du projet en fait, déposé par l'ANDRA, suite aux conclusions. Ensuite, en 2015, il y a le vote du Parlement pour la réversibilité. Donc, savoir sous quelle forme ça peut être réversible ou pas, le stockage, etc. Un truc un peu illusoire. Puis après, derrière, il y a en 2017-2018, il y aura l'autorisation du gouvernement pour la construction de CGO. Et donc, les travaux commenceraient en 2025.
D'accord.
Entre 2019 et 2025, il y aura les travaux du projet pour ouverture du site en 2025.
Là, ils en sont, oui, au stade où ils ont déjà possession de toutes les terres aux alentours du coup du laboratoire. Mais ça, à la base, comme... ils ont proposé le laboratoire, c'était juste on fait un laboratoire d'études et puis peut-être qu'après on va voir comment ça se passe. Là, ils en sont à un point où ils estiment que les études sont suffisamment poussées pour essayer de commencer à voir l'implantation d'un centre d'enfouissement et du coup qui se retrouverait bizarrement à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres au même endroit finalement, du coup où ça serait implanté sur une partie de la forêt qui est juste au-dessus, du coup sur le bout de la colline, avec tout un terminal ferroviaire aussi. Enfin, pour le moment, pareil, ils sont pas sûrs, mais ils ont, enfin, de fait, ils ont quand même acheté les terres où il y a, enfin, une partie des terres, parce qu'il semblerait qu'il y a encore des endroits qui ne leur appartiennent pas, où il y avait une ancienne ligne ferroviaire, du coup, qui leur permettrait d'acheminer des trains Castor. Sur le site, donc qui représenterait, je sais pas, je crois que c'est l'équivalent de...
La technologie est cruciale à la civilisation.
6 trains, je crois, par jour, Karim.
La France serait un...
Oui, il présente pas mal de transports,
dans le futur,
je sais plus, ouais.
L'idée, c'est le temps. Parce que le temps est devenu une valeur d'entreprise.
Une dizaine de trains par mois, ouais.
C'est le cybercapital qui crée le futur.
Du coup, ce qui représente des quantités relativement importantes, enfin... une dangerosité sur le fait aussi de se permettre de transporter ces déchets-là sans avertir les populations locales, qu'on a déjà pu le voir en fait avec la plateforme de Voie Wagon qui est implantée à une quarantaine de kilomètres de Bure et qui sur un nœud routier en fait et qui à la base permettait du coup quand ils ont implanté cette plateforme de transporter des pièces neuves construites en Hollande et en Allemagne pour le projet ITER qui est implanté à Cadarache, du coup dans le sud de la France. Et du coup, le Voie Wagon, donc ce petit village à côté de la 4 voies, était situé idéalement en plein milieu de cet axe qui permettait aux véhicules de s'arrêter, faire une pause et repartir le lendemain, finir la route. Et on a appris récemment que finalement depuis quelques mois en fait cette plateforme permettait le transport de matière radioactive où la population n'était pas au courant et n'avait aucune mesure de prise en cas de problème. On a pu voir ça récemment lors d'un tractage, ça passe à 80 mètres de l'école et personne n'est au courant quoi.
Vous vouliez faire de moi un robot.
Enfin, du coup, c'est cette dangerosité qui est là et cette présence des transports qui est permanente, qui est tout autour de nous et où on n'a vraiment aucun renseignement alors que ça représente un danger super important, où là, c'est des produits qui ont une réaction chimique super importante. Si on les arrose, qui produit de l'acide phosphorique du coup radioactif, qui ronge acier, verre et du coup toute matière qui est autour. Du coup, par exemple, si un camion comme ça se transverse, que les gens ils savent pas quoi faire, ils l'arrosent parce que c'est pris feu, on a une création d'un nuage ultra dangereux qui passera en plein milieu de la population alors que les gens ils savent même pas se protéger, qu'il n'y a même pas un cachet d'iode à la pharmacie, que même les gendarmes n'étaient pas au courant de. Les gendarmes locaux n'étaient pas au courant vraiment de tout ce qui se passe sur ce site. Quoi. Alors que le maire y était et le préfet aussi. Quoi. Ils ont préféré faire le choix de ne pas prévenir la population de ce petit détail de changement d'utilité du lieu. Quoi.
Le futur devient insistant. Et c'est pourquoi bientôt il se passera quelque chose. Aujourd'hui peut-être.
À transporter des combustibles neufs. Très radioactifs.
À quand les combustibles usagés ?
Bientôt. Mais tout ça dans l'anonymat la plus pure, sans déclaration. Ouais. Après, du coup, quand on a étudié, qu'on a commencé à se pencher sur ce problème de voies vacuum, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y a vraiment une pieuvre du nucléaire qui s'est mise tout autour de Bure. Que Bure sera vraiment le dernier truc, Bure, le projet CIGEO sera le dernier truc à arriver, et qu'avant il y a plein de trucs qui se construisent autour, dans l'anonymat. Il y a cette histoire de voie vacon ou de transport. Après, pas très loin non plus, dans les 30-40 km autour de Bure, il y a une plateforme logistique qui s'est montée aussi d'EDF, où ils font du stockage de pièces pour centrales nucléaires, donc des pièces neuves. Tout ce qui est plus classique. Après, il n'y a pas longtemps, on nous a informé qu'ils étaient en train de faire des murs en plomb. Donc, c'est pas pour faire des transports de pièces neuves, quoi, le mur en plomb. Et après, bah, c'est pareil, ils ont mis un centre d'archives, EDF a mis son champ d'archives. Il y a l'usine Safran qui est en train de s'installer aussi pas très loin, avec plein d'articles dans les journaux, comme quoi ils vont créer plein d'emplois et que c'est la fête, que c'est. Voilà, qu'ils ont.
Peut-être préciser ce que c'est l'entreprise Safran.
Et Safran, en fait, c'est une entreprise qui bosse notamment pour l'armée, où ils font des ogives.
D'assemblage
de têtes nucléaires, voilà. Des trucs, des carters pour avions et puis des assemblages de têtes nucléaires. Donc voilà, c'est en compensation du départ de l'armée dans cette ville. Donc ils mettent ça.
Que du bonheur.
Voilà. Et donc t'as toute une industrie du nucléaire qui se met en place dans le secteur petit à petit. Qui ne laissera plus de place pour rien d'autre que le nucléaire.
Moi, en fait, j'ai une question qui me vient, en fait, qu'on n'a pas évoquée, mais par rapport aux enjeux de l'enfouissement et de ce centre, en fait, qu'est-ce que ça veut dire un peu pour le nucléaire, pour le parc nucléaire, pour le fait d'avancer qu'il y a une solution aux déchets, enfin, tous ces trucs-là, là, un peu plus.
En fait, actuellement, tout là, ce qu'ils veulent enfouir à Bure, c'est les déchets hautement radioactifs, moyens et hautement radioactifs à vie longue. Donc, c'est des déchets qui mettent plusieurs milliers d'années avant de perdre en radioactivité. Donc, c'est des déchets actuellement qui sont stockés soit sur place, donc dans les centrales où ils sont produits. Donc, c'est souvent des combustibles usés, ou à La Hague, dans les piscines de La Hague. Sauf que tous ces endroits commencent à être pleins. Ils ont plus beaucoup de place pour stocker. Et donc avec CIGEO, en fait, ça va être une solution pour mettre tout ça dedans et d'avoir de la place pour pouvoir continuer leur production de déchets. Quoi. Voilà, c'est de mettre de la poussière sur le tapis pour pouvoir continuer à en faire. Quoi. Bah, et, ouais, pour eux, c'est la solution. Mais du coup, en fait, vu que la France est très regardée au niveau nucléaire, que c'est le pays innovateur, etc., et qui vend ces trucs. Et donc t'as beaucoup de pays en fait qui seraient intéressés pour un centre d'enfouissement. Et donc ils regardent beaucoup la France pour savoir ce qu'on va faire, le projet, etc. Donc il y a pas mal les Japonais, il y a les Australiens, il y a le pays du Nord, je crois que c'est la Finlande, qui nous regarde pas mal. Si les Français le font, après ça sera exporté et puis ça pourra se faire dans plein d'autres pays. Quoi.
On vendra nos centres d'enfouissement de déchets.
Voilà, après l'EPR on pourra vendre nos CIGEO.
Le problème et la solution.
C'est ça.
solution de A à Z.
Donc voilà. Et ils pourront dire qu'ils gèrent de A à Z le nucléaire. Donc avec les mines à l'étranger.
C'est vraiment la caution, l'excuse pour continuer à produire encore. Encore et aussi derrière actuellement, là, on est en train de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'usines qui commencent à être en fin de vie, où ça va être le moment où ils vont devoir donner des autorisations pour prolonger la durée de vie des réacteurs. Du coup, c'est vraiment continuer encore sereinement cette exploitation nucléaire en France, quoi.
Voilà, dans les studios.
Non, voilà, dans les studios, c'est toujours Terrain Vague. Radio Dijon Campus 92.2.
Voilà, on voulait réexpliquer un peu donc Bure, ce que c'est que cette histoire de Bure, ce cimetière nucléaire là.
Le projet CIGEO.
Voilà, le projet CIGEO. Et CIGEO, c'est Centre Industriel de Stockage Géologique. Donc vous avez compris,
alors,
c'est...
Stockage géologique, stockage de quoi ?
Stockage de déchets radioactifs.
Mais ils le disent pas dans le nom, quoi. Ils le disent pas dans le nom. Alors ils disent que c'est un stockage réversible.
Alors, donc, selon eux, ouais.
Selon eux, profond de déchets dits ultimes. Et leur définition d'ultime est assez drôle, c'est ne pouvant être traité dans les conditions techniques et économiques actuelles.
Sûrement que plus tard.
C'est bien de le
ouais, c'est ça, on le laisse pour les gens plus tard, quoi.
Donc, peut-être dire un peu à quoi ça correspond cet enfouissement. C'est d'enfouir à 50 mètres des déchets hautement radioactifs avec ce truc de réversibilité. Qui est de pouvoir, si jamais il y a un problème, pouvoir tous les ressortir comme ils y sont entrés. Sauf que c'est des déchets avec, qu'on manipule très très délicatement. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment très très
prudent.
Très très prudent. Et en plus, c'est des déchets qui dégagent énormément de chaleur, normal. C'est le nucléaire. Ouais. Ça dégage de la chaleur, c'est fait pour ça. Et du coup, qui peuvent être liés à des risques de fission. De fission, entraîner des phénomènes de fission qui pourraient faire de gros dégâts. Du coup, tout autour de ça, ils ont une espèce de gros système d'aération pour évacuer l'hydrogène qui est dégagé par ces déchets hautement radioactifs.
Parce qu'une des craintes, c'est que ça prenne feu, que ça s'enflamme à cause des...
Je sais pas si ça prenne feu, mais une des craintes déjà, c'est que ça fuit. C'est que la plus grosse crainte, c'est que ça fuit et que ça soit et que ça contamine. Les nappes phréatiques qui sont en Meuse et qui sont liées avec d'autres nappes phréatiques d'un peu notamment en Champagne et aussi du bassin parisien.
Alors pour revenir un peu techniquement, donc c'est à 500 mètres de profondeur que ça va être enfoui. Enfin, il y a environ 240 000 colis radioactifs, et ce qui représente 80 000 mètres cubes de résidus à haute radioactivité.
Ça, c'est ce qu'ils prévoient d'enfouir.
Ouais, voilà, à Bure. Quoi.
Prévoit de faire des agrandissements par la suite.
Et alors, ces déchets, ça représente 3% du volume total des déchets radioactifs, mais ça représente 98% de la radioactivité
totale de nos déchets
radioactifs. Ouais. Donc c'est vraiment la quasi-totalité de la radioactivité se trouvera enfouie.
C'est les plus dangereux,
les plus longs, parce qu'on les appelle longue vie, à longue vie. Ouais. C'est-à-dire qu'ils perdent la moitié de leur puissance en 100 000 ans. Ceux qui sont les plus longs à
décroître. Ce qui est calculé, enfin, c'est ce qui se dit, mais c'est possible que ce soit plus long.
On n'en sait absolument rien.
Oui, voilà, c'est par demi-vie. On peut toujours s'informer là-dessus si on est un peu novice.
Pour le coup, le réseau Sorte Nucléaire fait pas mal de petites brochures assez explicatives et bien faites sur ces dossiers, sur ces choses un peu plus techniques que nous, on a un peu de mal à expliquer comme ça. Mais c'est assez bien fait, des jolies brochures avec des dessins bien expliqués. N'hésitez pas à aller voir sur le site de Sorte Nucléaire. Org, il me semble.
Après, tant qu'on y est pour la com, on peut aussi dire n'hésitez pas à aller voir le site Stop Bure et
noblogs.org.
Alors, il y a d'autres exemples d'enfouissement dans le monde de déchets de ce type ou pas du tout?
Bah, si, il y en a notamment deux gros qui ont déjà été construits et qui ont déjà eu des problèmes. Pas loin de Gorleben, si je me trompe, en Allemagne, où là ils se sont amusés à enfouir de ces déchets qui n'avaient pas le niveau de radioactivité que ceux qu'on va enfouir à Bure, qui était plus faible, dans des anciennes mines de sel, du coup pareil en haute profondeur, en disant que c'est génial, le sel n'a jamais bougé ces dernières millions d'années. Et,
pas de raison qu'il bouge avec les déchets nucléaires dedans.
Bouge avec les déchets nucléaires. Le problème, c'est que les murs un peu de sel qu'ils avaient là-bas ont commencé à être rongés assez vite. Et donc, y a déjà eu des fuites avec contamination d'eau de nappes phréatiques souterraines ou de rivières souterraines. Et après, ils craignent peut-être un élargissement un peu plus important sur des fuites qui seraient plus grosses et qui pourraient contaminer d'autres nappes phréatiques et qui engloberaient des zones territoriales assez vastes Et du coup, c'est assez flippant. Et il y a un autre exemple qui est, si je me souviens bien, le WIP aux États-Unis, en Amérique. Alors, je ne pourrais pas vous dire la géolocalisation précise. En tout cas, ils ont fait un autre centre d'enfouissement de déchets radioactifs à haute profondeur aux États-Unis. Et après des incendies, je crois, plusieurs dégagements, voilà, plusieurs problèmes et plusieurs dégagements de substances radioactives. Le site est fermé aujourd'hui. Il a été fermé en 2012. Mmh. Et il a été créé, je sais plus, dans les années 85 ou un truc comme ça. Bon, ouais, après, c'est de l'information que... Voilà, il n'a pas fait l'enfeu et il montre bien, ces deux exemples montrent en fait que tout ce qu'ils ont testé en matière d'enfouissement n'a pas marché, a créé des problèmes et que là ils sont prêts à le répéter en France avec des déchets qui sont encore plus radioactifs. Voilà.
Et alors ça, ça pose en plus des questions évidemment de qu'est-ce qu'on lègue aux générations futures et de comment on fait des constructions humaines qui sont censées durer des centaines de milliers d'années. Alors qu'on ne sait même pas pour l'instant comment les premiers murs de l'humanité ont pu tenir jusque-là. On va faire en sorte que ces installations puissent contenir ce qu'elles sont censées contenir.
Bon, cela dit, l'ANDRA, là, qui est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, là, l'ANDRA s'en tape un peu parce qu'elle signe un contrat sur 100 ans, c'est ça ? Je crois que c'est 100 ans.
Je sais pas,
en tout cas, ils s'engagent à ce que les constructions, si l'enfouissement se fait à Bure, ça dure 100 ans, enfin qu'il y a une...
C'est tranquille, quoi, comme contrat.
Dans tous les cas, en tout cas, c'est complètement ridicule par rapport à la longévité de durée de vie des...
Mais ils nous font savoir qu'ils ont pensé à tout parce qu'ils pensent déjà à des méthodes pour dire à certains qui viendraient après nous, qui ne parleraient pas la même langue et qui n'auraient pas les mêmes façons de fonctionner, qu'il ne faut pas creuser à cet endroit-là.
Voilà.
Ou alors peut-être penser de laisser la zone un peu complètement dans l'oubli pour que les gens ne pensent pas.
Sur ce point-là, qui est pour moi un des points cruciaux de ce dossier, parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, qu'on soit contre le nucléaire ou pour le nucléaire, il faut qu'on trouve un moyen de faire comprendre aux gens que ça, c'est vraiment pourri, quoi, ce qu'ils ont sous les pieds. Et il y a un super film sur ce sujet-là qui s'appelle Into Eternity de Michael Madsen. C'est sorti en 2010. C'est un film danois. Ça a été tourné en Finlande sur le site de Onkalo. Onkalo, ça veut dire cachette en finlandais. Et c'est un site comme Bure d'enfouissement de déchets nucléaires. Et lui, tout son film, il le fait sur la question justement de comment va-t-on faire pour que les générations futures ne s'empoisonnent pas avec ces merdes. C'est un film assez poignant, assez intéressant. N'hésitez pas à le voir, je pense qu'il est trouvable sur Internet assez facilement. Il s'appelle Into Eternity. On revient sur peut-être l'actualité,
voilà, l'actualité
de Bure,
à Bure
et de l'appel. Ouais.
Donc on va vite faire introduire. Donc du coup, depuis cette création d'Assemblée nucléaire du Grand Est, il y a eu trois réunions un peu définitive, où la dernière était le lancement d'une campagne sur un an qui s'est faite, bon là c'était peut-être il y a 2-3 semaines, cette assemblée. Et du coup cette campagne s'appelle Bure 365, on va vous passer l'appel, et elle est destinée à faire des actions pendant un an, décentralisées sur toute la France. On passe l'appel.
Bure 365, ça commence fort et dès aujourd'hui.
Soyons les acteurs de l'opposition à l'enfouissement des déchets radioactifs.
Seul ou à plusieurs, en l'annonçant ou pas, en le revendiquant ou pas. Mettons notre énergie inventive et nos moyens dans la bataille. En autonomie, tous les modes d'action sont les bienvenus. Calendrier des actions à venir.
Samedi 7 et dimanche 8 juin, à partir de 10h, tricot musical devant les portes de l'Andra et Haute-Saint-Dièse.
Prévoir les tentes, les pique-niques, les aiguilles à tricoter, crochets et autres laines, et bien sûr les instruments de musique et les voix, l'entrain et la bonne humeur.
Un infotour a aussi démarré dans toute la France pour présenter et préparer cette campagne. Tous ceux qui le souhaitent sont invités à rejoindre cette tournée d'information qui constitue en elle-même une forme d'action.
Des personnes de l'Assemblée Grand Est participeront au grand rassemblement de Notre-Dame-des-Landes le week-end des 5 et 6 juillet, où seront dénoncés les grands projets inutiles et imposés, dont Cigéo à Bure.
Plusieurs initiatives en ce sens.
Un périple à vélo de Bure à Nantes, départ de Bure le 22 juin, via la vallée de la Loire.
Un temps fort à Bure le dimanche 29 juin, avec une randonnée à travers les bois échauds. Un périple motorisé via le Morvan et Bourges.
De Bure à Notre-Dame, après la randonnée du 29 juin. Les Bure à l'heure repartent pour un nouveau halage de débat, du 13 au 20 juillet 2014. De Bure à Paris, par la vallée de la Marne, tournée musicale à vélo le long des canaux afin de communiquer sur le projet CIGEO.
Festival Newcoff, vendredi 5 et samedi 6 septembre, Nancy.
Camp Kiel, Allemagne, du 9 au 16 août, contre les transports radioactifs. Prochaine assemblée Grand Est, dimanche 7 septembre matin,
sur le site du festival Nukov. Et bientôt, d'autres actions à venir.
Envoyez vos communiqués et projets d'action BUR 365 sur la boîte mail
nocigeo@trizep.net.
Ils seront relayés directement sur
nocigeo.noblogs.org. Pour tout savoir sur la convergence vers Notre-Dame-des-Landes, convergence, ndvl.over-blog.com. Le LH du débat.wordpress.com.
Voilà, c'est donc l'appel de BUR 365.
Gros appel électronique, hein, atomique. Gros,
ouais, c'est atomique, ouais, c'est clair.
C'est le futur atomique.
Bref, plein de choses à faire pendant tout l'été, voilà, et tous ces prochains temps autour de ce sujet-là.
Je pense que l'appel est assez clair, donc chacun chez soi, dès maintenant, même les gens qui ont entendu l'émission, peuvent éventuellement préparer une petite action, si ça leur dit, et la communiquer sur, sur le blog, si j'ai nos blogs. Ouais. Et donc voilà, juste pour ouvrir vite fait, parce qu'on est un peu rêche dans le temps, donc il y a un copain là de BUR qui va sans doute passer
au tannerie
le 1er juillet. Donc nous on va essayer peut-être d'organiser une petite discussion, peut-être un peu de communication, peut-être des perspectives d'action, on sait pas trop. Donc voilà, donc si ça vous intéresse...
Donc le 1er juillet, c'est un quel jour tu sais?
Non, pas du tout.
1er juillet, ce sera sûrement fin d'après-midi.
Voilà, ce sera sûrement fin d'après-midi au tannerie. On fera peut-être un peu plus de com plus tard. Cette personne est, passe vite fait un peu dans le cadre de convergence où après ils vont rejoindre le Morvan pour ensuite aller terminer sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où là on a un grand festival où toutes les luttes un peu de France sont censées se réunir là-bas et créer des liens, faire la fête, faire de la com, organiser des actions. Bon voilà, c'est un peu ça pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui veulent s'en renseigner.
Un dernier mot, moi je voulais parler d'un bouquin qui s'appelle Oubliez Fukushima.
Ah oui.
Qui est un chouette bouquin qui décrypte pas mal ce qu'implique l'atome, le nucléaire, dans la gestion
sociétale,
sociétale, etc. Ouais, politique, enfin voilà.
Évidemment.
Et ce bouquin, c'est écrit sous le pseudo Arkady Filin, qui est un pseudo d'un des liquidateurs de Tchernobyl de 86. Il est sorti en 2012, c'est aux éditions du Bout de la Ville. Et voilà, c'est à cause de la catastrophe du Japon, de Fukushima évidemment, et c'est autour de termes catastrophé, liquidé, évacué, réhabilité, banalisé, autant d'épisodes d'un feuilleton destiné à nous faire oublier Fukushima. Autant de chapitres de ce livre pour défaire les mensonges des états nucléarisés. Voilà, c'est de Tchernobyl à Fukushima, du Japon à la France, des textes, des récits et des documents. C'est assez chouette.
C'est vraiment très bon bouquin.
Alors, peut-être dans la continuation, pour ceux qui s'intéressent un peu aux déchets, petite brochure qui est sympa, qui s'appelle L'enterrement de celles et ceux qui mourront demain, qui parle un peu ce qu'on a fait en France et en Europe, et même un peu plus largement, de nos déchets nucléaires de 50 ans jusqu'à aujourd'hui. C'est assez trash, pour ceux qui s'y intéressent.
Très bien, on voulait finir par une annonce de festival de soutien. C'est le 27 et 28 juin prochain, c'est l'ABC Festival à Dijon. Ça se passera à l'espace autogéré des tanneries. L'ABC Fest, c'est quoi? C'est un soutien à un festival en soutien à l'ABC, qui est donc l'anarchiste Black Cross, une organisation internationale qui a un collectif à Dijon.
Dont organisation de soutien aux prisonniers anarchistes
Anarchistes et pas que, aux prisonniers et c'est lutte contre toutes les prisons. Ce sera deux grosses journées bien remplies le vendredi soir avec plein de groupes, du rap avec Kima et Singe des Rues, du crust avec Kringstadt, Anger Burning et Counter Attack, et du queer punk avec du reggae. Le lendemain, à partir de 14h, donc venez tôt, il y a une projection d'un film qui s'appelle Sur les toits, sur les mutineries en France dans les années 70. Ça risque d'être vachement intéressant. À 16h, une discussion autour des luttes contre la prison en France et ailleurs. Suivi à 17h d'un atelier d'écriture aux prisonniers. Si vous voulez venir écrire des petits mots sympas de soutien à des gens même que vous connaissez pas, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir quand on est dedans. Les concerts commencent à 19h avec Radio Bikini, du Fast Crust, Trashley, du Dance Punk. Je suis curieux de savoir ce que c'est ça. Il y aura plein d'autres groupes, voilà, c'est blindé. Les deux soirs, c'est 7€. Tous les bénéfices iront en soutien à l'ABC. Et il y aura moyen de faire de la sérigraphie, amener vos t-shirts, il y aura des distros et évidemment tout le week-end des infos sur l'ABC si vous voulez vous rencarder.
On voulait aussi annoncer le chantier d'été du quartier libre des Lantillères qui aura lieu du 10 au 20 juillet. Voilà, c'est 3949 rue Philippe Guignard, donc le quartier libre des Lantillères à Dijon, on en parle assez souvent. Vous pouvez aller voir plus d'infos sur lantillères.potager.org.
Voilà. Super. Super, super. Bon, on a fini l'année là.
Bon, bah, ouais.
C'est grandes vacances.
C'est grandes vacances. T'as tes cahiers de vacances.
Ouais, j'ai mes cahiers de vacances. Ah, qu'est-ce qu'il dit le monsieur?
10 minutes.
Ah ouais. Bah, on passe de la musique puis on revient dire au revoir. Allez, on vous passe Litovsk qui passe ce week-end donc à la BC Fest. C'est du post-punk. Ils viennent de Brest. Tout là-bas, tout du bout là. Ils ont sorti une démo cette année et c'est super cool. À tout. Et voilà, c'était Litovsk.
Litovsk. Bon, on voulait vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes les émissions de Terrain Vague Vacarme en Réunion sur tvnr.noblogs.org.
Ouais.
Voilà, toutes les émissions et plus encore, hein, tous les matériaux qui
servent, les documents, les textes qu'on essaie de lire et de partager. Voilà, nous on s'est bien marré à faire cette émission cette année. J'espère que vous avez apprécié de les écouter. Ouais. On se revoit normalement en septembre si tout se passe bien. La semaine prochaine, c'est la dernière émission de Vacarme en Réunion.
Ouais.
Les copains de la semaine B. Et puis voilà, et ben.
Voilà, merci Jackie Gérard.
Merci Jackie Gérard, c'était cool.
Pour être venu là.
Ouais.
Et puis on se retrouve sur les différents événements dont tout vous a parlé dernièrement. Là.
On se voit dans la rue et dans les champs, quoi.
Exactement. Allez. Bonnes vacances.
Yeehaw. Ciao.
Salut, merci le sondier.
Ouais, merci.